On est tous et toutes complètement ensevelis par de l'information, que ce soit les chaînes d'information, que ce soit les commentateurs en tout genre, que ce soit les commentaires évidemment sur les réseaux sociaux. On ne sait plus où donner de la tête et en réalité, c'est l'opinion qui fait l'information et plus du tout la réalité scientifique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas Truong. Nicolas, c'est un grand reporter. Il dirige la section Idées et Débats au Monde. Il est le responsable du Théâtre des Idées. Et ensemble, on va parler de cette Société du Commentaire, parce que c'est le nom de son ouvrage, La Société du Commentaire, qui est sorti aux éditions de l'Aube. Et vous allez voir, on va parler du commentaire, mais on va aussi parler de la manière dont l'extrême droite s'en est emparée et comment l'extrême droite a réussi à s'immiscer complètement dans le débat en France et à se normaliser à travers cette Société du Commentaire. Une discussion évidemment qui est hyper intéressante. Nicolas, il est passionné. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Grégory.
On va parler ensemble de la Société du Commentaire. Et j'ai lu cette phrase dans votre livre qui est « Ce n'est pas l'actualité qui fait le commentaire, mais le commentaire qui fait l'actualité ». Et je trouvais ça extrêmement pertinent. Et je me suis dit qu'on allait commencer par là. Peut-être que la question, c'est comment on en est arrivé à cette situation où effectivement, le commentaire fait l'actualité ?
Parce qu'on est arrivé dans une société que j'appelle la société du commentaire qui, au fond, sature le commentaire et l'interprétation, qui prend une place tellement importante qu'elle remplace presque en fait la réalité, l'événement, le fait qu'elle est censée commenter. C'est-à-dire que le commentaire, c'est une interprétation, c'est une explication, parfois même avant une exégèse, une lecture d'un texte ou d'une actualité. Et ce que j'ai appelé, moi, le commentariat, c'est un système de représentation et d'intervention médiatique sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé, les chaînes d'info, les radios, au sein duquel les commentaires parvenus à un certain stade en fait, d'autonomisation informent la réalité dont ils modifient la perception. Et ce qui fait qu'au fond, eh bien, ce dont le commentaire, ou moi ce que j'appelle le commentariat, ne parle pas, c'est comme si ça n'existait pas d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au fond, ça fait exister. Ça ne veut pas dire qu'il invente la réalité ou l'actualité. Je dis qu'il fait l'actualité. Ça fait exister un fait plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que je prends un exemple, mais il y en a tous les jours, d'un fait divers qui s'était passé en 2019. Et je sais qu'il y avait des confrères du Nouvel Observateur, enfin de l'Obs, qui avaient relevé ce fait-là. Il y avait une polémique autour d'une accompagnatrice voilée dans une institution. Et ça fait une polémique. Je crois qu'il y avait eu plus de 80 débats en 2 semaines. Enfin, je note ça quelque part. Alors que on ne parlait pas d'un fait qui me semblait peut-être plus intéressant, plus important, surtout et plus grave aussi, qu'il y avait la même année, en 2019, 733 morts dans un accident du travail, c'est-à-dire à peu près 2 par jour, 2 par semaine, pardon, ce qui me semble effectivement, qui me semblait peut-être être un sujet sur lequel on pouvait mettre le focus, mettre la focale. Et c'est en ce sens-là que le commentaire, en fait, qui est censé lui-même normalement interpréter, expliquer l'actualité, devient lui-même en fait l'actualité. Non pas qu'il l'invente, parce que souvent quand même, même si ça existe, qu'il y ait des fake news, de pures inventions, mais ça grossit effectivement un trait, un fait, et c'est d'ailleurs pour ça que, le sociologue Pierre Bourdieu disait qu'au fond, ces faits divers font parfois, sont des faits qui font diversion, parce que, non pas qu'ils n'existent pas, mais effectivement, ils permettent de focaliser en fait sur un sujet et d'en oublier les autres d'une certaine manière. Donc c'est en ce sens-là que le commentaire est capable de faire l'actualité, non pas où il la construirait ou il l'inventerait. Je ne dis pas ça, c'est pas du tout une critique complotiste que je mène du commentariat et de la société du commentaire. Mais voilà, mais c'est une critique qui se veut peut-être un peu éclairé par ce qu'on appelle un peu la philosophie des Lumières et qui est aussi la pensée critique qui nous permet de voir effectivement comment du coup on fait exister en fait quelque chose qui existe mais qui n'a pas l'importance qu'on lui donne.
Ça me fait un peu penser à la stratégie que Trump a mis en place. La stratégie de Bannon, finalement, qui était voilà, le conseiller de Trump, qui était... en anglais, c'est flood with shit, mais en gros, c'est balance un maximum de trucs sur les réseaux sociaux pour finalement cacher. Parce qu'en fait, les gens sont tellement occupés du coup à commenter tout ce que tu racontes, qui est complètement stupide, que les vraies actions, on les voit plus à l'intérieur de ça. Et en même temps, il étend la fenêtre d'Overton quand il fait ça. C'est-à-dire que quand il raconte n'importe quoi ou quand il raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux, les vraies décisions qu'il prenait, on les voyait plus. Et c'est sans doute comme ça qu'il a réussi à modifier des choses qui étaient fondamentales. Et on n'arrivait plus. En fait, il y avait tellement de trucs complètement débiles qu'on n'arrivait plus à voir qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était plus important. En fait, parce qu'en fait, ça a généré énormément de commentaires.
C'est très juste, c'est parce que aussi la mouvance néo-réactionnaire, national-populiste, identitaire ou de droite extrême, c'est parfaitement incrusté dans la société du commentaire. Elle l'a même, au fond, elle en a pris aussi les commandes financières, économiques. C'était le cas avec Donald Trump, avant qu'il n'accède au pouvoir, à travers des émissions, d'abord de radio, en fait. On a beaucoup parlé de la télé pour Trump, mais aussi, bien sûr, les réseaux sociaux, mais des émissions de radio aux heures de grande écoute. Ce qu'on peut parfois observer sur certaines chaînes, d'ailleurs, en fait, en France aussi, puisque cette galaxie-là, cette mouvance a parfaitement compris et appris des leçons de Trump, de Bolsonaro, même s'ils sont aujourd'hui destitués tout en étant dans une forme de réticence, voire de résistance dont on a vu les effets à Brasilia ou au Capitole ces derniers temps. En effet, ils arrivent à faire exister, à surexposer en fait ces faits-là. Et d'ailleurs, je crois que je me suis en effet trompé, c'est encore plus grave que ça, puisque... Donc, il y a eu 85 débats qui ont été montés par les chaînes info en octobre 2019 sur cette accompagnatrice voilée qui avait été, pointée du doigt par un élu du Rassemblement national. Et donc, 733 salariés, en effet, qui étaient morts dans un accident du travail, c'est-à-dire, en effet, oui, deux par jour qui sont relayés au second plan. Donc, effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des techniques... aussi. C'est pas simplement parce que il y a des affects, on en parlera sans doute, qui fait que ça prend tout ça. Pourquoi ça prend? Parce que c'est pas, voilà, on n'est pas non plus... Il y a des raisons qui expliquent ça, profondes, enfin je veux dire, dans notre psyché, dans notre psychologie collective. Oui, il y a des manières d'imposer des problématiques, de la même manière que, vous le savez très bien, Grégory, il y a des manières de poser des questions ouvertes ou fermées. Et là, nous sommes dans... votre studio, dans lequel on peut voir une très belle et je dirais même surtout très forte affiche d'un concert que Nina Simone a donné à New York en 1961. Puisque je lis cette affiche, on voit son regard saisissant, avec un titre magnifique qui s'appelle « I got my love », dans lequel elle dit qu'elle n'a pas grand-chose, qu'elle n'a pas de bien... mais qu'elle a ses cheveux, ses yeux, et bref, qu'il lui reste sa liberté. Si vous me dites, n'est-ce pas que Nina Simone, c'est bien? C'est pas tout à fait pareil que vous dire, est-ce que vous appréciez la musique? C'est pas tout à fait la même chose. N'est-ce pas que, évidemment, induit quelque chose? Donc, au fond, je dirais que les impositions de problématiques dans l'espace public fonctionnent de la même manière. Et si je vous dis... n'est-ce pas que c'est bon, là, ce que je t'ai fait à manger? Évidemment, voilà, on se sent un peu obligé de répondre à la question qui s'imposera. Et oui, c'était très bon, même si nous n'avons pas déjeuné ensemble. J'imagine que ça serait très bon. Bref, ça fonctionne dans l'espace public à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'on fait manière de poser des questions. Moi, j'avais relevé, par exemple, mais à l'époque où je m'étais penché sur cette question plus particulièrement pour commencer cet essai, il y avait je me souviens que Greta Thunberg n'était pas très appréciée au fond
non.
des commentateurs, notamment sur les chaînes info, les éditorialistes, comme on dit. T'es pas très sensible à cette génération dite radicale, donneuse de leçons à propos de l'écologie, etc. À mon avis, c'est une génération intéressante qui fait précisément ce que Margaret Mead appelait dans le fossé des générations, une sorte d'inversion de la transmission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont paradoxalement les plus jeunes, non mais normalement c'est les adultes qui transmettent les savoirs, les connaissances, l'histoire familiale, etc. Et parfois, quand le monde change tellement, ce sont, disait-elle, en fait, ce sont les jeunes, en fait, qui, au fond, introduisent à ce nouveau monde. Et au fond, ce que disait Greta Thunberg, me semble-t-il, c'était écouter les scientifiques. C'était, au fond, écouter votre héritage qui vient des Lumières. Et donc, ces scientifiques qui vous disent, ils sont 500, regroupés par l'ONU, au sein du GIEC, et ils vous disent que, voilà, pour faire vite, on va dans le mur, il faut changer un certain nombre de choses. Mais c'était très mal pris, on sentait qu'il y avait une réticence, une résistance.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et en fait, je voyais sous les bandeaux, parce que vous savez, les bandeaux, c'est comme les légendes des photos qu'on a dans les chaînes d'information continue. Il y avait, je cite de mémoire, Greta Thunberg fait-elle son cinéma, etc., etc. C'est-à-dire qu'au fond, bien sûr, vous avez des manières de poser les problématiques, et on le voit pour tout type de sujet, quoi. Je veux dire, on pourrait avoir la même chose sur une réforme comme celle des retraites, sur une politique migratoire. Évidemment, il y a des manières de poser des questions qui induisent des réponses. Et on assiste à ça, effectivement, aujourd'hui, me semble-t-il, dans la société du commentaire, puisque le commentariat a un peu pris le pouvoir, l'espace, soit par des techniques qui sont effectivement utilisées savamment par certains groupes politiques, idéologiques. Ça, c'est très clair, comme vous l'avez dit, à propos de Donald Trump. Mais on assiste ça assez régulièrement, même on a vu ça pendant la campagne électorale française. Ça va revenir, etc. Et puis, effectivement, sinon, vous avez, mais je trouve qu'il y a malgré tout, alors j'ai voulu essayer de rendre hommage plutôt à ceux qui font un petit peu des pas de côté, qui savent aussi être à la fois dans le commentaire intelligent, critique, mais aussi dans le commentaire, comment se taire parfois, parce que parfois il y a des informations qui n'en appellent pas nécessairement, où il y a même besoin d'un petit temps de silence qui est une marque de décence, la plus ordinaire parfois, quand il y a un fait divers, une disparition terrible. On n'a pas besoin de recouvrir, parce qu'en plus ça banalise, si vous voulez, beaucoup les choses, les événements, en fait. C'est-à-dire que tout est actualité quelque part. En fait, c'est le commentaire qui fait l'actualité, mais c'est aussi l'événement est gommé, un peu limé de ses aspérités, parfois parce qu'il est enseveli, tout de suite recouvert de flots de paroles, d'images, de tweets, de likes, etc. Et qu'on n'a même plus le temps de laisser venir à soi l'émotion. Et qu'en effet, c'est peut-être la pulsion, l'agacement. Tiens, celui-là, celle-là m'énerve. Enfin, je sais pas quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une possibilité quand même. Il y a un jeu possible aujourd'hui dans cette société du commentaire, parce que je suis absolument pas contre le commentaire. Je dis évidemment, c'est quelqu'un de célébrissime et de glorieux, si je puis dire, que je cite, qui est George Orwell, qui lui faisait des chroniques. Enfin, j'ai rien contre la chronique, le commentaire, c'est quelque chose de merveilleux. On a tous envie, besoin de faire ça. D'ailleurs, j'ai même parfois pas mal de... Je suis parfois épaté par les commentaires, certains commentaires sportifs, quoi, qui sont d'une... Voilà, enfin, que ça soit, je sais pas, du Tour de France, ou championnat du monde de handball, en passant par je ne sais quel sport. Il y a des gens qui... Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le commentaire, en fait, qui accède à une forme un peu de saturation, ce modèle, en fait, de « on refait le match », est très lié justement aussi au modèle de l'émission sportive, où on refait le match après, on débrief, on refait le match, et il y a une vertu à ça, parce qu'on aime aussi tous faire ça, on fait ça entre amis, au café, en famille, que sais-je, on aime bien aussi quelque part refaire le match, commenter l'allocution du président de la République après tel événement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ou le confinement, ou que sais-je. Évidemment, c'est quelque chose de tout à fait, comment dire, nécessaire. Mais je pense qu'effectivement, il y a à mon avis, il y a un travail critique à faire aujourd'hui parce que d'une part, la société du commentaire a été un peu accaparée par la mouvance néo-réactionnaire et ça donne des effets très concrets politiques. Dans certains pays, ils ont gagné les élections. Il y a des effets très concrets pour ceux qui subissent les effets de cette politique. D'un côté, c'est ça. Et de l'autre, parce qu'on arrive à un moment, et je pense que c'est ce qui fait le succès des espaces où on a du temps, où on peut se parler, parce que aussi, j'ai voulu aussi questionner la façon dont on était en train de se parler les uns les autres à travers ces commentaires parfois très acides, très acerbes, très, très binaires, et qu'on a besoin de retrouver. Mais quels que soient les moyens, moi je suis pas du tout contre le numérique, les réseaux sociaux, évidemment la presse, j'y travaille, j'y participe. Mais on a besoin de retrouver ça, quoi. En fait, le sens aussi de la parole qui n'est pas juste un mot en l'air, parce que la parole, elle est performative, elle fait pas que. C'est pas comme la chanson de Dalida avec Alain Delon. parole, t'es un beau parleur et au fond, ouais. Il reste rien. Les mots font les choses. C'est d'ailleurs ce que disait l'archevêque anglican Desmond Tutu en Afrique du Sud. Il disait, voilà, il ouvrait quand même les débats sur la question de la réconciliation. Après des années d'apartheid, il disait, voilà, je crois que les mots font les choses. Et la justice le fait quand on dit vous êtes, il y a une sorte de réparation, la parole compte. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça cause tout le temps, mais qu'on n'entend rien.
En fait, ça me fait penser à cette expression qui dit aujourd'hui, parce que vous parliez des faits scientifiques avec Greta Thunberg, que l'opinion a plus de valeur que les faits. Et ça me fait penser à une interview que j'ai faite d'un historien géographe sur le grand remplacement. Et donc les faits sont très clairs. Et ils sont clairement. Enfin, clairement, il n'y a pas de grand remplacement. Enfin, je veux dire, on peut le prendre dans tous les sens. Il n'y a rien. Et en même temps, quand je lis les commentaires des gens, plutôt d'extrême droite, hein, c'est sûr, ils disent oui, mais enfin, les chiffres, ils viennent de l'INSEE quand même. On sait bien que l'INSEE, c'est un peu. Ça appartient au gouvernement, donc ils nous disent bien ce qu'ils veulent. Donc en fait, il y a Trump qui a, pour revenir à lui, qui a créé cette logique de vérité alternative, donc des fake news, quoi. C'est une autre manière de le dire, qui est plus jolie. Et à travers cette société du commentaire, j'ai l'impression que, en fait, on a perdu le sens de ce qui était vrai, de ce qui n'était pas vrai, parce qu'en fait, je pense que les gens, ils savent plus non plus très bien à quel sens vouer finalement.
Oui, et si au fond, parfois, c'est pour ça que c'est un livre aussi qui s'adresse un peu évidemment à tout le monde, puisqu'on est, on est tous des commentateurs. on dit 60 millions de commentateurs, non pas simplement de consommateurs, pour reprendre une expression célèbre. On est tous des commentateurs, mais aussi parce que si on est fait pour le public, les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs, la figure du journaliste, c'est celui qui, un peu comme tout à chacun, au doigt mouillé, donne son opinion sur un sujet sur lequel il n'a pas travaillé. Et évidemment, ça laisse la porte ouverte à ceux qui vont dire « Écoutez, voilà, en quoi êtes-vous plus habilité que moi à en parler ?» Donc c'est pour ça que c'est un éloge aussi un peu de l'enquête. C'est-à-dire que chacun est capable de mener son enquête. Il n'y a pas simplement que les journalistes professionnels, de regrouper les informations. Bien sûr. Chacun le fait. Il y a beaucoup de collectifs aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être un constituant collectif, mais qui s'intéresse, je sais pas, à la pollution de telle rivière, qui s'intéresse à certaines ondes dans certains endroits, qui mène des enquêtes, qui recoupe des informations. On l'a vu avec cette journaliste, par exemple, Inès Leroux, qui a fait ça avec les algues Verne, elle est journaliste en Bretagne notamment, etc. Donc elle montre bien que aussi des collectifs se montent pour mener des enquêtes. Et donc effectivement, si c'est ça, si pour si l'enquête, si le journalisme, si le travail intellectuel consiste au fond à presque théoriser ses affects plutôt que de, je sais pas, inventer des des concepts, en tout cas ou en tout cas réfléchir, donner son avis à partir d'une pensée informée, à partir de choses d'un point de vue, mais aussi parfois d'un point de vie, mais aussi quand même en étant allé voir les choses, en les recoupant. Évidemment, les fake news, ou ce qu'on appelle très habilement les vérités alternatives, ouais. On va dire oui, mais ça c'est votre... Si au fond, les faits ne sont plus qu'un point de vue, alors en effet, on va dire, mais moi j'en ai un autre point de vue, donc j'ai d'autres faits. Donc, Trump a gagné, il n'a pas perdu.
Et ce qui est fou, c'est que, enfin, il y a des tonnes de sujets. Ben, le grand remplacement, c'en est un, mais on pourrait prendre le Covid ou d'autres. Où en fait, il y aura comme on est dans une société du commentaire, il y aura toujours quelqu'un qui essaye de faire le malin et qui a un commentaire qui va dans le sens des personnes et qui a un poste. Ça peut être quelqu'un qui a fait des études anormales ou qui est diplômé de je ne sais quelle université ou qui est ingénieur ou machin. Et comme il prend la parole dans un sens qui est pas classique, du coup on va dire ah oui mais regarde cette personne là, c'est ce qu'elle dit en fait. Il y a des experts quand même et ça renforce encore plus cet effet là, j'ai l'impression.
Non mais vous avez raison, d'autant qu'effectivement souvent ce commentariat complotiste et ça peut aller avec aussi évidemment d'extrême droite semble partir de la vérité que tout le monde voit et dont on ne parle pas. Regardez à une heure, comment regarder, on va dire, regardez à je sais pas, au RER à 17h ou à je sais pas, vous regardez tel métro, telle ligne. Regardez s'il n'y a pas le grand remplacement, il y a que des noirs et des arabes pour faire vite.
Mais justement, dans les commentaires, il dit ça. Il suffit de regarder les photos de classe.
Il suffit de regarder ce qui se passe. Alors, il y a deux choses, mais je pense que votre invité qui était Hervé Lebras, si
exactement,
je ne me trompe, comment dire, pouvait montrer que d'une part, c'est vrai que la société française se métisse d'une certaine façon. Enfin, effectivement, elle ne ressemble pas tout à fait à celle des années 1950, d'une part. Mais surtout, d'autre part, que c'est parfois, là je pense, une sorte de banalité de base, comme on disait. C'est qu'effectivement, qui prend le métro à telles heures? Qui prend plus telle ligne pour aller en Seine-Saint-Denis et pour venir au centre de Paris pour être qui infirmière, qui caissière, qui livreur. Donc effectivement, ça part d'une forme d'évidence, si vous voulez, parce qu'évidemment, tout le monde peut observer qu'à certaines heures, sur certaines lignes, il y aura plus de personnes dites de couleur ou d'origine, si vous voulez, extra-européenne. Mais voilà, mais après, c'est évidemment, après, c'est ce qui est intéressant, c'est l'interprétation qui en est née. Donc, grand remplacement, vous voyez, c'est ce que font un certain nombre de théoriciens, d'activistes, d'idéologues, d'extrême droite, en nous disant, regardez, tel quartier à telle heure, regardez ce qui se passe. Mais après, on ne pose pas la question de pourquoi, massivement, ces personnes-là se retrouvent dans ces quartiers-là, qui ne sont pas, en général, les plus huppés de la capitale ou des grandes villes françaises. Donc, cette question... très simple, pour le coup, qui était à l'époque évidente, pour le coup, savoir pourquoi ils sont là à tel endroit, pourquoi on a fait venir une partie de cette main-d'œuvre n'est plus du tout posée. On s'intéresse, et il me semble que ça, c'est intéressant pour la question que vous posiez, par-delà cette manière très idéologique de voir et d'interpréter la réalité. Je pense que derrière la question... du grand remplacement et de tous les affects, de tous les mots qui ont circulé. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail qui est aussi évidemment un travail critique, parce que d'une certaine manière, ils n'ont pas pris le pouvoir en France comme Trump et Bolsonaro ont pu le prendre à un certain moment. Mais ils ont imposé des mots. Voilà.
Ils ont banalisé.
Ils ont imposé des mots dans l'espace public. Et des mots, disait un grand philologue allemand, Victor Klemperer, eh bien parfois c'est comme des petites doses en fait de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde, disait-il. Ils semblent ne faire aucun effet et voilà qu'après quelque temps l'effet toxique se fait sentir. Et donc je pense qu'on sent aujourd'hui déjà les effets toxiques de ces impositions de problématiques, de mots dans l'espace public. Et autre chose, me semble-t-il, c'est que si ça prend aussi, si cette galaxie-là, qui on va dire, réactionnaire, national identitaire, qui s'est largement infiltré dans la société du commentaire et qui dépasse le cadre de la seule extrême droite politique. Hein. Ce genre de discours, on l'entend au-delà même de ça, parfois. Eh bien, c'est parce que je pense qu'effectivement, on vit une époque troublée en Occident et qu'elle est, à mon sens, marquée par trois grandes révolutions anthropologiques. Vous savez, dans les années... Au début du siècle, le Sigmund Freud, quoi, le père, on va dire, de la psychanalyse, avait dit, mais en fait, l'humanité, elle a été... elle a subi trois grandes blessures narcissiques, qui venaient d'ailleurs de révolutions scientifiques. La première, c'est Copernic, c'est-à-dire, en fond, bah voilà, l'homme, et puis évidemment après Galilée, mais l'homme n'est pas... Enfin, la Terre, en fait, n'est pas au centre de l'univers. Bon, première chose, première blessure, on n'est pas au centre de l'univers, de la création, comme on disait. Deuxième blessure, bah c'est Darwin. C'est-à-dire que l'homme est descendant, il est un vivant parmi les vivants, il est une espèce, voilà, il est une, comment dire, descendant d'une variété de singes. Et puis, troisième blessure, disait Freud, c'est moi. Enfin, c'est la psychanalyse qui dit, au fond, bah, finalement, le conscient n'est peut-être pas, c'est la partie peut-être émergée de l'iceberg, et au fond, il y a une grande partie inconsciente qui est présente dans les rêves, qui est présente dans un certain nombre de choses, et qui est au fond, dont on n'a pas vraiment pris conscience. Et donc, il disait cette formule, le moi n'est pas maître dans sa propre demeure. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit à nouveau ces blessures narcissiques à travers des révolutions anthropologiques, c'est-à-dire qu'il y a, avec la question écologique, il y a une nouvelle cosmologie, c'est-à-dire qu'en fait, bah, voilà, aujourd'hui... il s'agit plus de regarder le ciel là-haut, parce qu'on est obligé de regarder, d'atterrir, comme disait le sociologue et philosophe Bruno Latour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde notre fine pellicule sur laquelle on vit, qui n'est pas toute la Terre d'ailleurs, qui est juste on vit et qui est en train de se réchauffer de manière très dangereuse, et il faut s'en occuper. Donc il y a une sorte de nouvelle cosmologie et de nouvelles urgences, de nouvelles limites, voilà, écologiques. Donc ça, un peu... blessure, on va dire, cosmologique, changement dans l'intime. Là, pour paraphraser Freud, on pourrait dire que, puisque nous parlons entre hommes, Grégory, le mâle n'est plus le maître dans sa propre demeure.
On a Nina Simone.
Voilà. Et ben, Nina Simone était bien placée, d'ailleurs, pour le savoir, puisqu'elle a vécu comme beaucoup de femmes de sa génération et aussi de sa condition, des violences conjugales, notamment, et d'autres types de violences, notamment celle qui a consisté au fait qu'elle aurait pu et voulu, ça c'est sûr, être la première concertiste noire américaine de classique, puisqu'en fait elle vient, et je pense que quand on connaît sa musique, ses chansons, on sent qu'il y a aussi une culture classique derrière, sa manière de jouer du piano, même si c'est une improvisatrice hors pair. Eh bien, voilà, c'est la révolution de l'intime, quoi, si vous voulez, où tout, avec toutes les révélations autour de MeToo, des questions de liées à l'inceste, etc. Donc le pouvoir sur les corps, toutes les institutions qui ont le pouvoir sur les corps sont en train d'être remises en cause, jusqu'à la famille elle-même, puisque c'est aussi là que se passe la plupart de ce type de faits. Et puis la troisième, c'est le grand décentrement. Donc il y a premier décentrement, la planète, quoi. Le deuxième, l'intimité, c'est quand même très largement bouleversé. Et l'autre, et c'est ça qui touche, à mon avis, beaucoup cette galaxie extrême droitière, c'est le grand décentrement de l'Occident. Vous savez, Valéry Giscard d'Estaing disait en 1900, enfin, je ne sais pas si c'était en 1974, mais il a été élu à ce moment-là, mais il disait « la France est une puissance moyenne ». C'était très mal pris. En fait, il y a un décentrement du monde. On voit bien que là, quand même, ça tourne plus trop moins autour de nous qu'à une certaine période.
Ah bah c'est sûr que non. Hein.
Donc on
mais
voit
c'est dur à accepter pour beaucoup de Français, d'Européens, je pense, qui ont envie de croire encore et qui se racontent des récits sur... En fait, c'est marrant parce que d'un côté, ils racontent des récits sur la puissance de la France, etc., etc. Et dans le même temps, quand ça les arrange... Ils disent, si l'Europe changeait de manière hyper écologique, ça ne changerait rien, parce qu'il y a la Chine et les États-Unis qui produisent tellement de, d'impact. Et en fait, donc, quand ça les arrange, ils disent c'est super, pas c'est super, mais en tout cas, on n'y peut rien. Et puis finalement, il y a effectivement cette blessure narcissique de, bah oui, non, la France, on est un petit pays, quoi, en fait.
Oui, mais je pense que ce sont des réactions à ces trois choses-là, à ces trois nouvelles blessures, en tout cas, bouleversements anthropologiques majeurs. Ouais. Alors que, il me semble, parce que, et donc je pense qu'une partie, c'est pour ça que ça plaît ce commentariat d'extrême droite, ou en tout cas très, on va dire plutôt un peu de, oui, réactionnaire, conservateur, qui peuvent être portés aussi par des jeunes, hein, par des jeunes gens qu'on voit sur ce créneau, parce que je pense qu'il y a ce sentiment, effectivement, d'être déclassé, décentré, donc remplacé d'une certaine façon, mais très personnel, enfin très, très intime d'une certaine manière. Et c'est pour ça que ça prend, d'une certaine façon. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas fausses, au sens non pas le grand remplacement, mais oui, effectivement, il y a, d'une certaine manière, ce qu'on appelle la provincialisation de l'Europe, elle est effective. Oui. C'est-à-dire, c'est l'Inde qui va devenir un des plus grands pays du monde en termes de population. On voit l'importance prise par la Chine. On voit que, d'une certaine manière, une partie des gouvernements africains, certes sous influence, en tout cas très influencés par la Russie, la Chine, etc., ne veulent plus, enfin, congédient en fait les forces, les forces même françaises, qu'on voit au Burkina Faso, on l'a vu au Mali, dans pas mal de d'endroits. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a ce sentiment de déclin. Et c'est pour ça que vous avez toute une galaxie qui va, vous avez aussi bien des académiciens que des grands écrivains, que des humoristes, que des éditorialistes qui, aujourd'hui en France, et plein de publications, d'hebdomadaires, etc., qui sont sur cette, qui surfent là-dessus, alors qu'à mon avis, je pense qu'il y a au contraire les moyens de se réinventer sur tous ces points-là. Enfin, écologiquement parlant, intimement parlant, je trouve que vraiment ce qui peut se dessiner, cette nouvelle aventure entre les hommes, les femmes, ou entre les hommes entre eux, ou les femmes entre elles, enfin, il y a un nouveau commerce, on va dire, amoureux, qui peut s'inventer de manière formidable. Pareil, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui peut, sans être totalement naïf, qui pourrait s'établir avec, dans une sorte de concorde, si vous voulez, un peu des nations pour arriver à certaines choses. Mais on voit qu'on en est loin, on voit qu'aujourd'hui, on est dans des identités très, très fermées, très hostiles, très vindicatives. Et je veux dire, quand vous écoutez le discours aujourd'hui de Poutine dans ses différents discours comme au Club Valdaï, vous avez une rhétorique, et d'ailleurs c'est un peu ça qui a fait d'ailleurs perdre, enfin qui a fait perdre un petit peu, me semble-t-il, pied à Éric Zemmour pendant la campagne électorale dernière en France, présidentielle, puisqu'il était, il souhaitait qu'il puisse y avoir un Poutine français sur notre sol pour relever la nation. Ben, vous écoutez ses discours contre le soi-disant wokisme, avec des fake news comme quoi on demanderait en France aux enfants quel sexe ils voudraient choisir dans les écoles et que tous les hôpitaux seraient favorables à changer le sexe des mineurs sur leur simple demande, volonté, etc. Vous vous rendez compte que oui, ça gagne et que cette réaction à ces trois révolutions anthropologiques, au sens propre du terme, a des effets concrets.
Mais alors, moi, la question que je me pose, parce que il y a un rôle des médias, une responsabilité des médias et de certains médias. Et je pense évidemment à Hanouna, je pense à Pascal Praud, parce que vous avez fait référence à son ancienne émission sur le foot. Je pense à tous ces éditorialistes, et je me dis, en fait, c'est quand même fou qu'on les laisse faire. Enfin, je comprends la liberté d'expression, évidemment, mais il y a un truc qui m'échappe, parce que est-ce qu'on doit laisser la liberté d'expression à tout prix dans ces cas-là ? Parce que, bien sûr que j'ai envie de répondre oui, mais par défaut. Mais dans une certaine mesure, je me dis, mais c'est tellement dangereux d'avoir des gens. Alors, est-ce qu'ils expriment ? Est-ce que Hanouna, c'est finalement l'expression de ce que pensent les Français ? C'est possible aussi dans ce cas-là. Ben, voilà, c'est... Mais Mais j'ai l'impression que ça joue énormément, que ce soit Pascal Praud, que ce soit Hanouna, que ce soit... Moi, ça me fait un peu peur, en fait.
On oublie souvent que la liberté d'expression que nous chérissons tous, notamment depuis cette fameuse loi de la fin des années 1800 sur la liberté de la presse, est encadré. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire à votre micro, et ni même ou dans les colonnes de mon journal...
Mais dites-le quand même.
Qu'est-ce qu'on devrait savoir ? Pour faire le buzz, je ne dirai pas, je ne proférerai pas d'insultes antisémites, d'invectives racistes, d'appels à la violence sur les personnes ou sur une personne en singulier. C'est-à-dire que,
je veux dire que
c'est faux, en fait.
Les médias publics profitent des... C'était la dernière sortie d'Hanouna, mais...
Que les médias publics...
Ah, il a fait toute une chronique sur les médias publics qui cramaient l'argent des Français pour faire de n'importe quoi, alors qu'eux, ils allaient manger du caviar, etc. Enfin, bref.
Oui, mais ça, c'est une dénonciation, au fond, des élites ou du mainstream, qui est très... Au fond, ça, c'est très intéressant, parce que c'est en fait, dans cette rhétorique-là, dans cette galaxie-là, dite néo-réactionnaire ou national populiste, ou que sais-je, il y a une sorte de rhétorique qu'on pourrait appeler de rhétorique de l'inversion. C'est-à-dire, en fait, les minorités sont majoritaires. France Inter, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, l'émission est effectivement une des radios les plus écoutées en France, mais comme si, au fond, alors qu'ils oublient que, quand on regarde, il suffit de se promener dans la rue, d'ouvrir un peu son poste de radio, d'ouvrir sa télévision, considérer que, ce qu'on appelle le progressisme n'est pas ce qui est le plus, la chose la mieux partagée, la plus partagée au monde. Donc c'est une sorte de rhétorique de l'inversion, c'est-à-dire qu'effectivement, les minorités sont majoritaires, il y a une sorte de tyrannie. Il y aurait une tyrannie, en fait, des minorités, en fait, qui, au fond, auraient la majorité. Or, quand on voit le résultat des élections, par exemple, si vous voulez, on est un peu circonspect, d'une certaine manière, puisque c'est pas... On voit que, quand même, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, au second tour, c'est pas tout à fait ce qu'on appelle la victoire des minoritaires gauchistes, etc. C'est pas tout à fait ce qui
c'est
domine.
Pas ce qui ressort, hein.
C'est pas ce qui domine, en tout cas, au niveau des. Et ni des sondages, ni des élections. Mais c'est effectivement une rhétorique. Alors, de l'inversion qui fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le discours dominant. À mon avis, je pense qu'on oublie que la liberté d'expression consiste pas à pouvoir tout dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ça. Elle est encadrée par la loi. Ce qu'ils oublient, en fait, c'est que c'est un peu la question qui t'a fait roi. C'est-à-dire que, oui, on peut décider d'attribuer ou non, en fait, une société, la France peut décider d'attribuer ou non, tel canal, à telle chaîne, et si effectivement il y a des problèmes, si vous voulez, si vous avez, des gens négationnistes, révisionnistes, ou qui vous disent que, que les chambres à gaz n'ont pas existé, vous n'êtes pas obligé de, si c'était le cas, vous ne serez pas obligé, évidemment, de leur octroyer le canal pour qu'ils puissent dire cela. Donc, si vous voulez, c'est au fond... liberté d'expression, en fait, oui, mais elle est encadrée. Et puis, une société peut décider, mais même via son parlement. Moi, je regrette que souvent ces questions-là, dites culturelles ou etc., soient peu débattues, en fait. C'est-à-dire quelle télévision on veut, quelle radio on veut, quel média on veut, soient assez peu discutées par la représentation nationale. Eh bien, oui, on peut décider ou non de donner de la place à telle ou telle mouvance. Et à mon avis, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'opinion. Il y a des pensées qui ne sont pas de l'ordre de l'opinion, qui sont tout simplement des parfois répréhensibles par la loi, tout simplement.
Mais en fait, c'est là où ils sont.
C'est ça, vivre ensemble. Enfin, je veux dire, on se moque, cette galaxie se moque beaucoup de la question du vivre ensemble, mais en fait, c'est ça qui fait qu'une société tient ou pas. Et quand effectivement, Cyril Hanouna sur son plateau de télévision estime qu'il ne faudrait pas qu'au fond il faudrait des tribunaux d'exception ou une justice expéditive après tel fait divers absolument atroce, évidemment plus que condamnable. Il prend lui-même en fait une responsabilité et c'est lui qui dit « je suis la parole du peuple », comme si le peuple, parce qu'il fait de l'audience, nécessairement penser ça. Je pense que c'est d'ailleurs, à mon avis, me semble-t-il, une erreur. Je pense que, heureusement, d'ailleurs fort heureusement pour nous tous, je pense qu'il y a quand même une capacité aussi critique des auditeurs, des téléspectateurs, qui est plus grande qu'on ne croit. C'est pas parce qu'ils regardent, en fait, qu'ils adhèrent nécessairement. Ouais. Mais, en effet, je suis assez frappé quand on voit la situation au Brésil, aux États-Unis, que ce qu'on pourrait appeler tout simplement, au fond, la propagande, quoi. Enfin, je veux dire, au sens... avec des techniques de, voilà, avec des bulles affinitaires, avec des réseaux dans lesquels on regarde plus que soit ces émissions-là ou ce type d'émissions-là, et encore c'est en boucle, avec d'autres médias, créés exprès, avec des... voilà. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est quand même assez... Là, je vous rejoindrais sur la crainte. C'est-à-dire, j'ai à la fois une sorte de confiance malgré tout, j'essaye d'avoir cette confiance dans l'esprit critique, quoi, la capacité de jugement, de pouvoir, la critique au fond, le mot grec qui veut dire au fond trier ce qui, ouais, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut, ça vaut pas, des gens d'aller regarder, on a les moyens en plus de s'informer aujourd'hui, d'aller voir, et en même temps, vous avez raison, il y a quand même une capacité assez phénoménale à imposer comme ça des idées, des faits alternatifs, qui est assez sidérante et qui a des effets très concrets. Alors, les gens qui étaient au Capitole et qui étaient à Brasilia ces dernières semaines-là, je pense qu'ils pensaient sincèrement qu'on leur avait menti, était, etc., que c'était un communiste avec le couteau entre les dents qui allait rétablir le goulag et que sais-je. Donc, effectivement, ça, c'est assez saisissant parce que, pour le coup, on se sent parfois, face à ça, un peu démuni, mais je pense que d'où l'importance, en fait, de mobiliser, en fait, cette capacité à se donner à soi-même sa propre rhétorique. C'est ce que disait le poète Francis Ponge, il racontait ça, mais je trouve que c'est plutôt arrêter d'être parlé, parler soi-même au lieu d'être parlé, agir au lieu d'être agi par des mots d'emprunt qui nous viennent de tel ou tel qu'on a entendu. Bref, se faire sa propre opinion, c'est quand même ce qui est... en plus, il y a un plaisir quand même, une sorte de jubilation, essayer de comprendre un fait... Bref, quoi, à se servir de son propre entendement, de sa propre raison, et même si on a des affects, et même si on a bien sûr des émotions, des aversions, capable un peu de mettre un peu d'auto-réflexivité, d'un peu de, voilà, de faire une petite pause avant d'appuyer sur le bouton. Et...
En fait, ça me fait penser à 5 choses. La première, c'est évidemment que ce que je pense qui fait la force aujourd'hui de l'extrême droite, c'est qu'on les a bannis des médias pendant un petit temps et que du coup ils ont fait leur force sur internet, donc les bannir c'est pas la solution, et je pense que vous avez raison, c'est la deuxième chose, il faut faire confiance aux gens, ils sont pas idiots, mais du coup ça veut dire aussi qu'il faut les aider entre guillemets à avoir un esprit critique, c'est la deuxième. La troisième, c'est que là où ils sont malins quand même, je pense à Hanouna, c'est qu'ils arrivent, et c'était le début de notre conversation, à imposer des discussions là où il ne devrait pas y en avoir. Par exemple, je pense à la sécurité en France. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques en tête, mais enfin, je crois qu'on n'a jamais été dans un pays aussi sûr. Et en même temps, c'est un débat hyper... quand on demande aux Français c'est quoi le problème, ils vont vous parler de sécurité, en particulier des gens qui sont dans des villages où il n'y a absolument aucune insécurité. Et c'est quand même fou, parce que du coup, ils ont réussi à imposer des sujets qui sont des non-sujets, ou pas les sujets majeurs, ce que vous disiez tout à l'heure pour cette femme voilée versus les personnes qui meurent au travail. La quatrième, c'est l'impact des réseaux sociaux, c'est-à-dire en fait la libération de la parole et le fait que finalement... à travers les réseaux sociaux on peut donner son avis et c'est super quelque part, mais j'ai l'impression que ça enferme dans des bulles que du coup on est dans l'entre-soi, donc on se gargarise. Et moi, le cinquième point qui me fait peur, c'est que tout ça, j'y crois très fort à, évidemment, la capacité des gens à avoir un esprit critique, etc. Et en même temps, ce que j'observe, c'est la montée de l'extrême droite, c'est 60% des Français qui croient dans le grand remplacement. Et je me dis, ben, c'est pas neutre, en fait. Enfin, j'avoue que j'ai pas la solution.
Et en fait, vous m'avez invité parce que je l'ai.
Exactement, précisément.
Non, personne ne l'a, mais en essayant de désigner, peut-être, enfin, je ne l'ai pas fait tout seul, ça ne m'est pas venu comme ça, cette idée de ces trois révolutions anthropologiques. Je m'appuie aussi sur des travaux d'anthropologues, comme ceux de Philippe Descola, qui s'intéresse au nouveau rapport, on va dire, à la nature, et qui invite à rompre en cette opposition binaire et millénaire, on va dire, entre la nature et la culture qui a dominé l'Occident aujourd'hui, parce qu'effectivement, tout est en train d'être renversé, tout est en train d'être questionné. En fait, ce qui était naturalisé, c'est-à-dire qui paraissait naturel, est questionné. Un peu comme l'économie, au fond, elle est questionnée, c'est-à-dire que ça paraissait naturel, et puis c'était évident qu'on ne pouvait pas avoir plus un taux d'endettement de plus de 3%, puis on se retrouve finalement avec plus de 100%, et puis ça tient quand même, et tout est rebattu.
Oui, du coup, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces élites?
tout est rebattu d'une certaine manière de ce point de vue-là, et donc je pense que de pointer, d'essayer de comprendre d'où ça vient et pourquoi on a cette impression-là, cette impression de déclassement, de remplacement, que ça procède de quelque chose qui, de phénomènes puissants, en fait, qui sont au-delà de nous-mêmes et qui sont au-delà de notre propre volonté, là, chacun, le matin, et d'essayer, au fond, de comprendre ce qui nous arrive et de voir aussi, de percevoir ça. Vous savez, les stoïciens disaient, il faut vouloir ce qui arrive. Alors, il ne s'agit pas, parfois, il faut résister à ce qui arrive, notamment, vous le disiez à... En tout cas, moi, c'est mon cas, et vous le savez en ayant lu La Société du Commentaire, à cette puissance idéologique extrême droitière. Mais essayer de comprendre pourquoi ça arrive, déjà, ça permet peut-être, à mon avis, aussi sur quel affect il faut mobiliser. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé, c'est-à-dire que vous dites, il y a des sujets qui sont des non-sujets, en tout cas pour vous. Alors, pour moi, je pense que ce sont des sujets, le voile, je sais pas quoi, le burkini, des trucs qui tournent en boucle, etc. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres sujets et on pense qu'on ne va pas faire d'audience, qu'on ne va pas intéresser si on s'intéresse à la question. Là, tout à l'heure, on parlait de manière tragique du travail, mais moi, je suis persuadé, et je le sais parce qu'en plus, ça vous arrive de le faire, quand vous demandez aux gens de parler de leur travail, de parler de leur nouveau, quelque part, du nouveau rapport au travail. On en discute beaucoup en ce moment. Il y a des gens qui veulent à la fois, et parfois des jeunes gens, mais pas que, il y a un petit fossé génération parfois là-dessus, mais pas uniquement, qui veulent au fond, parce qu'ils passent la plupart de leur temps de vie, un travail sensé. Je veux dire, un travail qui ait du sens, qui n'ont pas envie de perdre leur vie à la gagner. Si vous parlez des questions d'écologie, pas simplement pour dire, évidemment, comme le font un certain nombre de, je sais pas quoi, d'émissions, pour parler, je sais pas quoi, des Khmers verts, des ayatollahs. Vous aurez remarqué que c'est souvent, en fait, la rhétorique dite un peu anti-communiste,
le terrorisme écologique,
anti-totalitaire, comme si on avait besoin
d'un... C'est comme le wokisme, d'ailleurs, c'est très étonnant. Hein.
Oui, comme si on avait besoin d'un ennemi comme ça à désigner, comme si, au fond, il fallait recycler ce vieil ennemi communiste qu'on n'a plus. Qu'on a perdu, enfin en tout cas qu'une partie de ceux-là ont perdu, parce que le mur est tombé, même si il reste la Chine, la Corée du Nord et quelques pays qui sont, en tout cas qui se réclament, on va dire, du communisme. Il y a besoin de dire, oui, que c'est vraiment, au fond, on a, comment dire, mis sur des effets de la démocratisation ou de la massification, par exemple, scolaire, les mots, en fait, de l'anticommunisme, de l'antitotalitarisme. À une époque, les instituts de formation des maîtres, on appelait ça les goulags des savoirs. Non mais c'est ça, on parlait de la révolution, un auteur célèbre parlait de la révolution culturelle à l'école. Là on parle donc de Khmer Vert. Il y a toujours cette rhétorique-là, comme s'il y avait besoin, pour bien sûr disqualifier. À mon avis, c'est assez méprisant à l'égard de ceux qui ont vraiment vécu les sévices, comment dire, des Khmers rouges ou les vraies victimes en fait du totalitarisme, de désigner, comment dire, Greta Thunberg et les siens de Khmers. Mais il y a une rhétorique comme ça, du discrédit. Mais surtout, je pense qu'on peut, à mon avis, et c'est là qu'il y a un levier possible, que vous disiez comment faire. Moi, je suis persuadé, parce que je le vois, en fait, parce que je l'ai observé. Moi, j'ai vu cette société, je vois cette société changer, bouger, à la fois sur le terrain des idées, puisque au fond, c'est ce que je fais, puisque j'ai cette chance d'être reporter en charge de la vie intellectuelle et du monde des idées, on va dire, mais pas tout, évidemment, je couvre pas tout avec d'autres au monde. Mais je vois ce monde bouger sur tous les terrains, parce qu'aujourd'hui, on assiste à une pensée de terrain, avec des gens qui... et des intellectuels, et des penseurs, et des philosophes qui s'inscrivent dans des territoires aussi, dans des terrains de lutte, de recherche, et qui inventent des choses. Je veux dire, on a quand même dans cette société, moi je trouve, une intelligence collective, mais extraordinaire. J'ai eu la chance, vous le savez, vous recevez des gens qui participent à cette intelligence collective. Mais même, prenons quelque chose de très... Moi, j'ai assisté à quelques séances de ce fameux grand débat que Emmanuel Macron avait souhaité après la crise des Gilets jaunes et qui a été un peu enterré comme beaucoup de choses, dont les conclusions dormaient en tout cas à une époque dans les préfectures et les sous-préfectures de France. J'ai assisté, moi, à des gens qui étaient soit ensemble, soit seuls, je sais pas, des médecins, des boulangers, des étudiants, des cadres, qui avaient des idées sur beaucoup de choses, sur énormément de choses qu'il fallait résoudre pour essayer de faire se rejoindre en fond ceux qui s'intéressaient, ceux qui étaient préoccupés par la fin du mois et ceux qui étaient préoccupés par leur fin de mois et ceux qui étaient préoccupés par la fin du monde. Et qui n'était pas forcément utile de les opposer. J'ai vu ça, mais j'ai aussi assisté dans pas mal d'endroits dits alternatifs, mais qui au fond sont parfois très associatifs, mainstream, qui sont repris par même les mairies, qui sont parfois soutenus par des régions. Des lieux nouveaux inventés, des formes de solidarité, d'entraide, d'habitat partagé, écologique, mais sans que ça soit non plus la communauté nécessairement des années 70 où tout le monde habite ensemble, où chacun peut avoir son appartement, mais aussi tout simplement un endroit, des endroits partagés, à la fois pour des raisons écologiques, type, je sais pas, machine à laver, que sais-je, etc., mais aussi pour d'autres choses, pour inventer des solidarités intergénérationnelles, pour pas laisser forcément toujours, même si ça peut aussi être bien s'ils le souhaitent ou si les familles le veulent, les vieux seuls dans certains types d'EHPAD, mais être... voilà, en fait, moi je vois une société, comment dire, et je suis persuadé que ça serait très intéressant d'entendre ces personnes-là. De la même manière qu'on n'a pas entendu, alors c'est peut-être on n'a pas entendu des personnes dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire toutes ces fameuses accompagnatrices voilées, on les a peu entendues sur ces plateaux de télévision, etc. Donc du coup, je pense que, et ben, c'est pas forcément pour dire que, et laisser entendre que forcément le voile c'est bien, etc. C'est pas ça, mais je pense qu'il y a en tout cas une possibilité, et ça, de à la fois d'informer, de faire, de partager, de commenter aussi, parce qu'il y a évidemment toutes ces initiatives, en fait, qui sont présentes partout, qui mobilisent chacun d'entre nous, plutôt des affects un peu, je dirais, assez positifs. Et ça, c'est pas que quelque chose de, si vous voulez, de naïf, d'un béotien. C'est-à-dire que quelqu'un comme George Orwell, que citait l'auteur de 1984 et de la ferme des animaux, qui tenait une chronique dans Tribune, mais qui voulait tenir des chroniques pour rendre les gens conscients de ce qui se passe en dehors de leur propre petit cercle. Il faisait ça, voilà, il s'adressait donc lui aussi à son camp, qui était très clairement à gauche, mais il posait des questions... qui fâche parfois. Hein, il disait que la liberté d'expression, c'était ça. C'était aussi, d'une certaine manière, questionner aussi ce qui ne l'est plus, etc. Et questionner aussi ses propres préjugés. Ben, lui, il parlait de la... Il observait dans les classes populaires, ce qu'il appelait la common decency, quoi, la décence ordinaire. Il y a plein de choses qui s'inventent. Je veux dire, ça existe, ça. C'est pas des choses qui sont. Et donc, je pense qu'on peut, on peut faire de l'audience, à mon avis, avec l'entraide, avec la solidarité, avec le partage de connaissances, de savoir. Je veux dire, cette société a des trésors de savoir. La prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, disait que chaque personne possède soit en elle-même un roman ou une phrase, ou un poème, ou une phrase. Bah, cette société, en tout cas, moi j'ai la chance de l'observer, d'aller la voir, de la rencontrer. Bah, elle invente. Et elle invite à mon avis, et elle gagne à être davantage invitée. Et voilà. Et je suis persuadé que vous faites une émission sur la façon dont on peut aujourd'hui, par exemple, suite aux incendies de cet été, ben comment on peut gérer une forêt tout en l'exploitant éventuellement, mais pas en faire des usines à bois comme on a fait pour les céréales ou l'agriculture dite intensive, qu'on peut pratiquer ce qu'on appelle au fond, enfin, faire la forêt jardinée ou la futaie régulière ou peu importe, où finalement, eh bien, les bûcherons peuvent passer, mais en fait, vous ne voyez même pas que les bûcherons passent parce qu'il n'y a pas des. Ça fonctionne sans coupe rase, où il n'y a pas besoin de planter. Moi, j'ai été faire un reportage en Suisse, c'est très fréquent, très présent, très, très développé. Et dans certains endroits aussi en France, bon, bah, c'est très intéressant. Je pense que ça intéresse tout le monde parce qu'il faut partir de aussi. Oui, de nos affects, de nos émotions, de ce qui nous concerne. Et moi, j'aimais beaucoup cette. J'aime beaucoup cette phrase du philosophe du vivant, on va dire, Baptiste Morisot, qui est à la fois un philosophe chevronné, un pisteur de loups, de Panthère des Neiges, mais aussi de lombriques d'appartements et d'animaux, voilà, et qui dit au fond, bah, il dit un peu aux jeunes qui ont l'air un peu désemparés, qui ne savent pas trop comment faire par rapport à ce monde, voilà, qui a l'impression qu'il va un peu dans. Il court au-devant de la catastrophe qui est elle-même annoncée et documentée. Il dit, bah, trouvez un lieu à aimer personnellement et à défendre collectivement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est-à-dire que et Bruno Latour j'ai eu la chance de signer un livre d'une certaine manière avec lui, Habiter la Terre, mais à partir d'entretiens qu'on a fait sur Arte. Mais il disait, c'est pas signé que je citais tout à l'heure, disait au fond, bah oui, c'est vrai quand on dit on va sauver la planète, on peut un peu dire c'est trop grand pour nous, on baille un peu d'ennui. Et si on dit mais défendez tel territoire, là tout le monde accourt. Donc c'est évident, je pense qu'il est possible, réponse, pardonnez-moi un peu longue, mais parce que c'est tellement abyssal et qu'on se sent parfois un peu désemparé, quand on a un peu ce flot de commentaires, d'images, souvent assez toxiques, au fond, et en plus surtout un peu triste, quoi, un peu bourré de passions tristes, enfin, on sent que même parfois quand on y cède un peu nous-mêmes, on sent que ça appuie pas sur la partie la plus intéressante de nous-mêmes, quoi, d'une certaine manière. Bah, c'est pour dire que tout ça est là. Je veux dire, tout ça est présent, très présent en fait dans les aspirations, à mon avis, et dans la réalité d'une partie des gens de ce pays, et que ça peut faire, à mon avis, une audience d'enfer aussi. C'est tout à fait possible, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de fatalité à ce que ça soit tel fait divers dans telle cité qui tourne en boucle pendant des semaines et des semaines, quoi. On peut imaginer, et c'est pas simplement que parler des trains qui arrivent à l'heure. Là, c'est pas des trains, parce qu'on dit oui, les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Mais là, c'est pas des trains qui arrivent à l'heure. C'est, par exemple, c'est des trains de vie. nouveaux, qui sont inventés, qui peuvent résoudre un certain nombre de problèmes, qui peuvent rendre, au fond, une société plus harmonieuse. Ce n'est pas des trains qui arrivent à l'heure, c'est à la limite des trains qui vont plus vite, ou c'est arriver au même endroit, c'est presque bien. Sans train ou avec d'autres modes de locomotion, en étant un peu plus épanoui, et dans son travail, et dans sa vie sentimentale, etc. etc. C'est quand même pas tout à fait rien. Donc c'est pas, non, c'est pas le train banal qui arrive à l'heure, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué avec les grèves. Mais regardez par exemple sur les sur des retraites, plutôt que de mouliner, on voit très bien que derrière se noue la question du travail, du rapport au travail, de quel monde on veut. Je pense que les choses soient trop techniques et soient trop techno, ou soient trop idéologiques et idéologisées. À mon avis, j'espère qu'on commence un peu à saturer. Et qu'on a, de toute façon, parce qu'on n'a pas le choix, et parce qu'à mon avis, on a envie d'aller vers des choses plus, je sais pas, plus sensées, plus enthousiasmantes, qui nous portent, parce qu'à la fois, on n'a pas le choix, et parce que j'ose croire qu'on est encore, en dépit de ces sentiments de déclassement, de déclin, de que sais-je, quand même encore porté au fond de nous par ça.
Alors, le problème qu'on a avec Nicolas, c'est qu'on a des conversations qui sont très longues. Mais, du coup, je vais m'arrêter. Et je vais vous demander. Le podcast s'appelle Vlan. Parce que c'est hyper intéressant, c'est ça le problème. Donc, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Mais...
J'espère que je ne pérore pas trop.
Non, pas du tout.
C'est parce que choses qui me mobilisent et qui, à la fois, vous intéressent, nous intéressent. Et
je pense que c'est essentiel, parce que c'est ce qui structure notre société, en fait. Donc, c'est ça qui... Enfin... Pour moi, en tout cas, j'ai vraiment cette sensation que c'est pas du tout un sujet de côté, c'est vraiment un sujet central. Parce que ça construit l'opinion, ça construit les imaginaires collectifs, et c'est ce qui construit notre société demain. Donc, le podcast s'appelle Vlan. Donc, j'aimerais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte.
J'aimerais claquer la porte aux idées reçues. Et l'ouvrir aux pensées, aux pratiques, aux expériences les plus aventureuses et inattendues.
Parfait. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Grégory.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !